J'étais prêt à n'importe quoi. Je m'étais dit, Seigneur, je m'en vais dans le ministère. Bon, j'ai encore un paquet d'affaires à apprendre, mais j'étais loin de me douter ce qu'il allait me montrer. Et puis, j'ai fait le pas, j'ai dit, Seigneur, peu importe ce qui arrive, je suis prêt. Je vais le vivre, je vais l'accepter. Je veux que tu me transformes. Je veux apprendre. Donc, c'est avec cette approche-là que j'ai commencé ma formation. Et puis, ma première année, elle a été très difficile parce que le Seigneur, il m'a démoli complètement. Peut-être que le mot démolir peut sembler fort, mais non, parce que c'est littéralement ce qui est arrivé. Avec le temps, avec les années, je m'étais construit une image. Je m'étais construit ma zone de confort. J'ai grandi dans l'Église. L'Église, pour moi, j'étais un poisson dans l'eau dans l'Église. Je connaissais le monde, j'étais chez nous, j'ai grandi à cette Église ici. Et puis, bref, je connaissais les réponses, je connaissais le comportement, je connaissais le langage. J'étais chez nous. Hein? Le milieu chrétien, je le connaissais. Et puis, quand je dis que le Seigneur m'a démoli, c'est qu'il m'a montré ce fait-là. Il m'a montré que c'était pour moi. Comment je peux dire ça? L'Église était quelque chose que je faisais, mais par moi-même. J'étais autosuffisant dans le milieu chrétien parce que j'avais grandi dedans. Puis je m'étais construit une image, je m'étais construit une image de quelqu'un qui était très spirituel, de quelqu'un qui était un bon croyant. Pour moi, le service était très important. J'aimais beaucoup, j'avais beaucoup de responsabilités dans l'Église. Même avant d'être en formation, j'étais responsable de des groupes, j'étais responsable des jeunesses. J'avais construit mon univers autour de ça. Ce qui a fait que pour moi, rentrer en formation, ben j'étais déjà dans le service, j'étais déjà impliqué. Donc, on s'est pas vraiment posé de questions. Pas vraiment posé plus de questions que ça. C'était une suite logique des choses. Mais quand je dis que le Seigneur m'a démoli, c'est que le Seigneur a adressé cet aspect-là dans ma vie. Il a détruit ma zone de confort. Intérieurement, quand j'ai été exposé à ce qu'on nous exposait dans nos cours, j'étais ébranlé. Sans nécessairement savoir pourquoi, j'étais ébranlé. Ma zone de confort commençait à disparaître de plus en plus, puis le Seigneur était en train de montrer mon jeu dans tout ça. Et puis, j'ai terminé cette première année-là, où est-ce que là, j'étais très spirituellement fatigué. Et puis, la fin de l'année est arrivée. Là, j'étais spirituellement fatigué. Mais en même temps, je savais que le Seigneur, il me tenait. Le Seigneur était là. Le Seigneur, il me tenait, puis je dis, je continue dans cette voie-là, je continue à persévérer, le Seigneur a quelque chose d'autre à me montrer. C'est pas facile, mais j'étais pas le seul à vivre des choses difficiles. Les autres membres de la cohorte aussi, ils vivaient des éléments dans leur vie. Dieu est en train de faire un travail, puis ça m'encourageait beaucoup. Donc, on entame la deuxième année. J'ai entamé la deuxième année avec beaucoup de questions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Sans nécessairement avoir les réponses. Et puis, sans que ma situation familiale, ma situation de couple, ça faisait 2 ans qu'on était mariés, quand j'ai entamé ma deuxième année de formation, je pense que ça faisait 2 ans qu'on était mariés. C'est pas que ça allait mal. C'est pas non plus que c'était le septième ciel, si vous comprenez ce que je veux dire. Ma femme vivait des choses. Et puis, je comprenais pas. Elle avait beaucoup de difficultés avec notre situation. Elle était pas satisfaite, elle était pas heureuse dans notre condition. Puis moi, je me demandais pourquoi. Voyons donc, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça a même été un point où est-ce que dans ma deuxième année, j'ai remis en question le fait que je sois en formation. Je me suis dit, ma troisième année, je la fais pas. Si ça continue comme ça, si ça se règle pas, ben je peux pas être dans le ministère, ça marche pas. Ma femme me soutient pas. Elle est pas 100% en tout cas derrière moi. C'est pas qu'elle veut pas qu'on aille dans le ministère. C'est qu'il y a quelque chose présentement dans la situation qui ne la met pas en paix. Puis moi, j'étais convaincu que le problème, c'était elle. C'est normal. Fait que là, j'essayais de donner des trucs. On donnait des livres. Voyons donc, Chantal, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Là, reprends-toi. Et moi, là, tranquillement, en arrière, j'étais en train de commencer à réfléchir. Ouais, là, il faut que je lâche la formation. Mon rêve est en train de s'en aller, là. Mon rêve est en train de partir en poussière. Parce que l'idée que je chérissais depuis des années, mon aspiration de cœur, mon désir d'aller dans le ministère et mon plan de vie est en train de s'envoler, là. Hey, moi, j'avais fait des plans, là. Hey, j'étais 5 ans d'avance, là. Si c'est pas plus. Fait que là, quelque chose qui marche pas. Et puis, j'ai prié. Le Seigneur a mis vraiment une conviction dans mon cœur de chercher la réponse, de chercher pourquoi, parce que je ne peux pas continuer comme ça. Ça n'aurait pas été intègre, ça n'aurait pas été correct devant Dieu et aussi devant mes frères et sœurs, devant l'Église. Donc là, l'année avance, puis Seigneur, mets un fardeau. Il y a un fardeau qui est là, puis je le comprends pas. Ça s'améliore pas avec Chantal. Fait que là, tout débobiné. Continue mes cours. Continue à crier au Seigneur, à demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Et puis, j'étais assis dans un cours à l'Église Emmanuel à Montréal. C'était Don Carson qui donnait le cours. C'était sur les épîtres pastorales. Et puis, il était en train de parler des qualifications pour être dans le ministère. Voici ce qu'est un homme de Dieu selon ce que la parole de Dieu enseigne. Et puis, je vous dis, ça m'a frappé comme un marteau. Il y a eu un déclic. J'ai compris. J'ai compris que le problème n'était pas Chantal, mais que le problème était moi. Ça peut sembler peu de choses, mais c'est énorme. C'est énorme parce que, premièrement, je suis une personne qui est orgueilleuse. Et pour moi, exposer mes faiblesses est quelque chose de très difficile. Être vulnérable est quelque chose de très difficile pour moi. C'est un orgueil caché. Ça paraît pas en apparence, mais en dedans, mon ami, je suis très orgueilleux. Et puis, juste le fait de dire que le problème, c'est moi, c'est une œuvre de Dieu qui est immense. Le Seigneur est venu, puis il a adressé ça. J'écoutais Don Carson qui expliquait, puis là, j'ai dit, mon ami, je suis vraiment loin de prendre soin comme je devrais le faire, comme la parole de Dieu me demande de le faire. Et puis, à partir de là, il y a une paix qui s'est installée. Le fardeau qui était là s'est en allé. Et puis, j'ai arrêté d'écouter le professeur, puis je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire ce que j'avais sur mon cœur. Les choses qui marchaient pas. Les choses que ma femme me demandait, que je trouvais illégitimes, que je trouvais irraisonnables, dans le fond, elle avait raison. Elle était en droit de me demander que je prenne soin vraiment de elle. J'étais tellement occupé par les ministères, par les études, c'était réellement ma priorité. Je suis une personne qui était très activiste. Je travaillais beaucoup et puis je me donnais à 100% dans ce que je faisais. Et puis moi, quand je m'étais marié, ma femme était une coéquipière. Était quelqu'un qui allait faire le ministère avec moi. Donc, c'est ma coéquipière, on parle, on fait des choses ensemble, mais là, Chantal n'était pas nécessairement intéressée à faire des choses avec moi. Et puis là, elle était, dans un sens, elle était quasiment un obstacle à mon ministère. Parce que là, elle m'empêchait d'avancer, elle m'empêchait de rouler à 100 000 à l'heure, elle m'empêchait de m'embarquer dans ci, de m'embarquer dans ça, parce qu'elle voulait que je prenne du temps pour elle. Et c'était légitime. Mais dans ma conception, c'était pas un besoin. Mais là, Dieu me dit, regarde, Étienne, arrête. C'est légitime ce qu'elle te demande. Et puis, c'est toi le problème en disant que ce qu'elle te demande est pas correct. Fait que là, c'était vers la fin de l'année, vers la fin de ma deuxième année. Et puis, je suis revenu à la maison en lui expliquant ça. Et puis, ça a vraiment été un choc pour elle, parce qu'elle ne le croyait pas possible. Mais Dieu a fait son œuvre. Ça faisait 6 mois qu'il mettait un fardeau sur mon cœur, que je criais à lui, puis il m'a donné la réponse. Parce que je le cherchais dans tout ça. Puis Dieu a donné la réponse. On en commence la troisième année. La troisième année, je l'ai commencé avec une attitude complètement tout autre. Les 2 premières années de démolition sont passées. Je commence la troisième où est-ce que Dieu m'a affermi énormément. Dieu m'a affermi énormément. Dans le début de ma troisième année, mon petit garçon est venu au monde, James. Et puis, avec tout ce que ça implique, un changement de vie radical, on dort plus beaucoup la nuit et tout ce que ça implique. Mais dans tout ça, le Seigneur nous a réellement gardés. Et puis, le Seigneur m'a affermi beaucoup. Je prenais des cours de leadership et ainsi de suite. Et puis, j'ai énormément appris dans sa parole. Fait que cette année-là, ça a été une année d'affermissement. Le congé de maternité de ma femme terminait. Et puis, on avait la conviction que Dieu voulait que ma femme reste à la maison. Donc là, elle était la principale source de revenus pendant les 3 premières années que j'étais en formation. Mais là, si elle ne retourne pas travailler, ben là, il faut qu'on aille de la bouffe à la table. Donc, à la fin de cette année-là, je suis retourné, au début de ma 4e année, je suis retourné sur le marché du travail, dans mon domaine de formation en télécommunication. Et puis, ça a été, je remercie le Seigneur pour cette année-là parce que j'ai appris ce qu'était le marché du travail. J'avais eu des travails avant, mais jamais un travail séculier ou est-ce que j'avais juste eu des travails étudiants. Et puis, j'ai appris à concilier famille, église, études. C'est pas facile. J'ai appris la valeur du temps dans tout ça. Et que le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Cette année-là aussi a été une année où est-ce que il s'est passé, intérieurement, spirituellement, c'est une année où est-ce que je me suis éloigné de Dieu. Puis laissez-moi vous expliquer pourquoi. À la fin de ma 2e année, on est allé au ministère Cœur à Cœur avec Daniel Savignac. Et puis, le Seigneur a commencé à faire une œuvre là. Je me suis exposé au monde, à un monde que je ne connaissais pas du tout, qui est tout l'univers des émotions, puis toutes ces choses-là. J'étais une personne qui était très dans ma tête, très cartésienne. Et puis là, j'ai découvert ce côté-là des émotions, et puis de concilier ça dans ma relation avec le Seigneur, dans ma relation avec ma femme, être prêt émotionnellement de ma femme. Le Seigneur, là-bas, a commencé son œuvre. J'ai été honnête avec le Seigneur là-bas comme je l'avais jamais été. J'ai adressé des choses que je voulais même pas adresser moi-même personnellement quand j'étais tout seul. Fait qu'imaginez avec quelqu'un d'autre, puis imaginez avec Dieu. Fait que j'ai fait face à des choses. Dieu m'a montré mon cœur là-bas. J'étais pas très nécessairement heureux avec ce que j'ai découvert. Le cœur de l'homme est tortueux. Et puis le Seigneur me l'a montré là-bas. Mais on a donné ça au Seigneur. Ma femme aussi, ça nous a rapprochés énormément. Mais là-bas, on n'avait pas trouvé le nerf de ma guerre. Ma blessure, la chose qui conditionnait ma façon de penser, la chose qui m'influençait au quotidien, on ne l'avait pas découvert. Je faisais des pas vers ça. Le Seigneur nous prépare puis il nous montre les choses une étape à la fois. Hein? Parce que s'il nous le montrerait tout de suite, est-ce qu'on serait capable de le prendre? Non. Fait que le Seigneur, à travers la 1re année, préparait mon cœur. À travers la 2e année, il préparait mon cœur. Là-bas, il nous a fait faire un grand pas. Là-bas, je veux dire, avec Daniel Savignac, il nous a fait faire un grand pas. Mais il préparait encore quelque chose. On n'avait pas trouvé le nerf de ma guerre. Ça a pris 3 mois en venant de cœur à cœur où est-ce que là, le Seigneur me l'a montré. Le Seigneur me l'a montré. Et puis, ça fesse. Parce que c'est pas nécessairement ça à quoi tu t'attends. Puis là où est-ce que je me suis éloigné de Dieu, c'est dans ma réaction. Quand j'ai vu c'était quoi, quand j'ai vu la douleur qui était associée à ça, j'ai fermé la porte. J'ai dit, wow, minute. Je me sentais comme si j'étais sur le bord de la falaise, puis là je regardais en bas, puis il faut chaud. Je sais qu'il faut chaud. Mais ça me coûte de sauter. Parce que si je saute, je perds le contrôle. Si je saute là, je peux pas revenir en arrière. Et puis, j'ai fermé la porte. J'ai résisté au Seigneur. Ma femme savait qu'il se passait quelque chose. Elle me sentait m'éloigner. « Tiens, est-ce que ça va? »« Oh, oui, ça va, ça va, ça va. » Je me souviens, je me tournais là, dans mon lit, là, puis là, on dort, je suis fatigué. Je ne peux pas en parler. Parce que si j'en parle, je pourrais pas... Vous comprenez, si j'en parle, je vais être obligé de l'abandonner, je vais être obligé de le laisser sortir, puis je voulais pas. J'ai lutté avec le Seigneur. Fait que ça, c'était au milieu de ma troisième année. Fait que dans tout ça, le Seigneur m'affermissait, mais en même temps, j'essayais de repousser cet élément-là. Mais là, le Seigneur me le ramenait, mais là, je le repoussais. Fait que là, j'ai lutté jusqu'à ce que mon cœur se refroidisse. J'ai lutté jusqu'à temps que je ne ressente plus rien par rapport à ça. Ma quatrième année a été ma phase de rationalisation. Je me suis concentré sur mon problème pour le comprendre. D'où est-ce que ça vient? Ah ouais, c'est à cause de ça, ça, ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hey, et puis tu as vu, Chantal, quand il se passait ça, 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 j'essayais de l'adresser d'une façon rationnelle, avec ma tête. Parce que quand je fais ça, je suis capable de garder le contrôle. Comprenez? C'est ça, j'ai fait toute ma quatrième année. Et là, je me sentais m'éloigner de Dieu. J'ai recommencé à vivre ma vie chrétienne avec ma tête. J'ai recommencé à revivre comme je vivais avant ma vie chrétienne, avec ma tête. Ou est-ce que je suis au contrôle? Parce que quand je suis au contrôle, j'adresse ce que je veux bien adresser. Et puis, c'est pas Dieu qui est au contrôle. Fait que je vois dans mes zones de confort. Je vois où est-ce que je suis à l'aise. Fait que j'ai rationalisé, j'ai compris. Ceux avec qui j'avais un ministère, je m'en souviens, on passait des soirées, je leur expliquais ce qui se passait, puis qu'est-ce que j'avais vécu, puis le pourquoi. Fait que je rationalisais tout ça, puis ça m'aidait à le contrôler. Et puis là, je savais que c'était pas correct. Je savais que j'avais perdu quelque chose. Que le Seigneur, il était pas content de tout ça, puis je le savais. Puis je savais qu'il fallait que ça cesse. Et là, mon cœur s'était refroidi. J'étais revenu un roc, puis ma femme le sentait, ma femme le voyait, ça paraissait dans mes réactions, ça paraissait dans mon comportement avec mes enfants, avec elle. Et puis, la cinquième année commença, cette année, celle qui vient juste de se terminer. Et puis, à chaque année, quand on est membre d'une cohorte, on a un DFC qu'on appelle. C'est un domaine de notre caractère qu'on veut adresser. Et puis, celui que j'ai choisi, celui que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est l'orgueil. Parce que je savais très bien que c'était mon orgueil qui m'emmenait à résister au Seigneur. Puis c'était mon orgueil qui m'empêchait de faire le pas de plus que le Seigneur voulait que je fasse. Avant, je le voyais pas, mais là, c'était clair. Ça faisait un an que j'essayais d'expliquer, de rationaliser, mais là, ça a fait, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Fait que là, je me suis mis à étudier l'orgueil, à comprendre c'est quoi, à lire le livre « L'humilité et la vraie grandeur » de M. Mahaney. Et puis, il m'apprenait rien de nouveau, parce que je savais c'était quoi l'orgueil, je savais c'était quoi la vraie humilité. Dans les études que j'ai faites, je me penchais beaucoup sur ces questions-là, parce que je recherchais ce qui était vrai. Je recherchais, j'écoutais des prédicateurs qui leur cœur était ouvert au Seigneur, des hommes qui marchaient dans l'esprit, et puis ça m'affectait. Fait que je savais mon problème. Et puis j'ai commencé à l'exposer à Dieu, ce que je faisais pas avant. J'ai dit, Seigneur, cette année, viens briser mon orgueil. Seigneur, je te résiste, puis tu le sais. Mais mon cœur est froid, mon cœur est mort. Seigneur, viens guérir mon cœur. Ça a été la prière avec laquelle j'ai commencé l'année, puis laquelle je la prie encore régulièrement. Savez-vous quoi? Le Seigneur a répondu. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur a répondu. J'ai exposé mon problème au Seigneur. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est ton domaine. Je peux pas ramener mon cœur en vie. Je peux pas reprendre mon cœur puis l'attacher à toi. C'est impossible. J'ai essayé pendant des années de le faire, mais tout ce que ça m'amène à le faire, c'est vivre ma vie chrétienne avec ma tête. J'étais bon, là, écoute, ça fait des années. Un athlète qui s'entraîne pendant des années, il est bon dans son sport. Au début, là, il a pensé à toutes ses techniques. Mettons, un nageur, il faut qu'il pense là, à bien lever le coude, à respirer au bon moment, à bien positionner ses jambes, à avoir le bon mouvement. Mais quand ça fait 10 ans qu'il fait ça, il pense plus à ces affaires-là. C'est rendu automatique. C'est la même chose dans notre vie chrétienne quand on la vit avec notre tête. Au début, là, on essaye de travailler. Moi, j'ai un problème avec le mensonge. Fait que là, je vais travailler le mensonge. Hein? Fait que là, il faut pas que je mente. Faut que je dise la vérité. Le Seigneur me dit de dire la vérité. Faut que je dise la vérité. Je te fais confiance. Non, faut pas que je compte de mensonge, faut que je dise la vérité. À un moment donné, là, à contrôler notre mensonge, on devient bon à contrôler notre mensonge. Fait que là, quand ça fait 2-3 ans qu'on travaille là-dessus, ben là, on peut commencer à travailler autre chose, tout en maintenant celle-là. Hein? On n'a plus besoin de réfléchir à contrôler notre mensonge, c'est réglé dans notre tête. Fait qu'on est capable d'en prendre un autre. Fait que là, je vais adresser mon orgueil. Fait que là, il faut que j'aie l'air humble. Fait que j'ai des phrases, tu sais, il y a des phrases clés, là, pour avoir l'air humble. Fait que là, après ça, on est content parce qu'on a l'air humble. Yes! C'est bon, hein? Mais on s'exerce à vivre la vie chrétienne. Puis on devient bon avec les années. Puis, j'ai dit, Seigneur, j'en veux pas de ça. J'en veux pas de ça. Fait que le Seigneur, c'est toi qui vas venir faire un œuvre. J'étais prêt à n'importe quoi. J'étais prêt à n'importe quoi, même si c'est pas toujours facile. Et puis, cette année-là, j'ai entamé une conversation avec Dieu comme je l'avais jamais faite avant. Le Seigneur m'a fait passer à travers plein de choses. Il est arrivé des éléments. J'ai écouté une prédication de Paul Washer. Et puis, ça m'a jeté à terre. J'étais en colère contre Dieu. Parce que là, je comprenais toute l'importance de la mort à soi-même. Je savais qu'il fallait chauffer en bas de la falaise, puis que je meurs à moi-même, puis que je laisse tout le contrôle au Seigneur. J'ai résisté à ça, j'expose le Seigneur, ça n'a pas d'allure. Pourquoi? Il me semble que tu es égoïste, puis c'est, je le veux, le mérite de mon travail, c'est normal. Là, tu dis non, c'est pas toi qu'il faut qu'il l'aille, c'est moi. Mais là, regarde, là, Seigneur, t'es pas mieux que moi, là. Tu sais, c'est comme si je mettais Dieu égal à égal, puis là, on était une conversation, là. Ben oui, c'est sûr, si je suis égal à égal, si t'es mon ego, puis là, t'as tout le mérite de mon travail, c'est normal, je t'en veuille, c'est humain, là. Tu vaux pas mieux que moi, puis là, t'as tout le mérite de mon travail. 1 minute. Mais ce que le Seigneur m'a montré, c'est que je voyais le Seigneur comme ça. Mais comment est-ce que Dieu est en réalité? Hein? Dieu est là. Puis nous, on est là. Hein? Fait que quand je regarde en haut, je dis, hey Seigneur, c'est à moi, ça revient, ça. Ouais, ok Seigneur, tu c'est correct, tu le mérites. Je le mérite pas. Seigneur a notre vie dans ses mains. Si Seigneur veut nous arrêter, là, il peut. Chaque jour qu'il nous donne est une grâce qu'il nous fait. Wow! Fait que cette rébellion contre Dieu que j'avais, ben Dieu l'a remis à sa place. Et puis je l'ai abandonné, puis ma conversation avec le Seigneur a continué comme ça. Le Seigneur m'a montré des choses, et puis là, il amenait des situations avec moi et ma femme. En tout cas, ça a été une période assez difficile, où est-ce qu'on tu sais, il y a des roches qui se frottaient, là. Je me souviens des soirs, j'étais fâché, là, puis là, non, je parlerai pas, non, je le dirai pas ce que j'ai, non, je le dirai pas. Ma femme, elle voyait, j'étais fâché, elle me disait, t'es-tu fâché, Étienne? Non, c'est correct, ça m'affecte pas. Il y a rien, je voulais pas que rien m'affecte. Vous vous souvenez quand je disais, je voulais pas avoir l'air faible? Fait que je voulais pas que ma femme sache que j'étais fâché en dedans. Je refoulais tout ça. Mais là, à un moment donné, à force, ainsi de suite, l'accumulation, là, je disais au Seigneur, pourquoi est-ce que je ferme mon cœur comme ça? Pourquoi est-ce que, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai à cacher? Qu'est-ce que je redoute de m'exposer? Je me souviens, un soir, on s'était pognés, et puis on était toutes les deux couchées, et puis plus les minutes avançaient, plus la tension augmentait. On se disait, on parlait pas, là. Plus la tension montait. Là, j'ai dit, c'est moi qui sors ou c'est elle? Parce que je reste pas dans la même pièce qu'elle. Fait que là, elle se lève, et puis elle s'en va dans le salon. Ça fait « OK ». Là, j'ai dit « Seigneur, je te demande de venir adresser mon cœur. Je te demande de régler mon problème. Tu m'offres une occasion en or sur un plateau. Je suis encore en train de fuir. » J'ai dit « Là, ça fait. » Je me suis levé, j'ai pris mes couvertes, je me suis enroulé de main. Là, je me suis allé dans le salon, puis je me suis assis sur le divan en face de elle. Pas à côté. Puis j'ai dit, tu restes assis là, puis on part. Ça a été toute une soirée. Mais comment délivrante? Je pense que c'était la première fois que le Seigneur mettait des images, que le Seigneur révélait ce que je vivais en dedans. Il m'a expliqué comment est-ce que j'étais dans ma caverne, puis comment est-ce que je me protégeais. Il m'a expliqué que ce quoi ma femme adressait dans ma vie, pourquoi des fois j'avais de la tension envers elle, c'était parce que ma femme était près de Dieu, son cœur était près de Dieu. Elle a grandi dans une famille où est-ce que le Seigneur a pris soin, où est-ce que ses parents prenaient soin de son cœur. Et puis moi, cet univers-là, je le connaissais, mais plus ou moins. Fait que dans nos premières années de mariage, j'ai pas pris soin de son cœur parce que je laissais premièrement personne prendre soin du mien. Fait que j'y ai fait énormément de mal en ne prenant pas soin de son cœur. Et puis, ma femme cherchait mon cœur. Elle prenait pas plaisir dans toutes les activités. Elle prenait pas plaisir dans l'activisme, dans le service, dans ci, dans ça, parce que pour elle, elle dit, oui, c'est bien, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est ton cœur. L'essentiel, c'est Dieu. Et puis moi, ces éléments-là de service-là, c'est ce qui me gardait en vie. Enlevez-moi mon ministère, enlevez-moi mon service, ce que je considérais le don de moi-même, enlevez-moi tout ça, puis je ne suis rien. Qu'est-ce qui reste après ça? Enlevez-moi tout ça. Qu'est-ce qui me reste avec pour me présenter devant Dieu? Rien. Comment je vais pouvoir me présenter devant Dieu si je suis rien, si j'ai rien à lui emmener? Fait que ma femme attaquait constamment ce qui me gardait en vie. Ma femme attaquait mon identité. Puis c'est ce soir-là que je l'ai compris. Avant, je ne le comprenais pas. Ça l'a fait tout un changement. Bien que je l'avais compris, est-ce que je m'en étais sorti? Pas nécessairement. C'est que là, maintenant, ma femme était capable de m'aider et de prier pour moi dans ma condition. J'étais prisonnier de ma caverne. Si quelqu'un osait rentrer dans ma caverne, attention, parce que le petit Étienne se transformait en soldat avec son épée et son bouclier, puis fais attention, parce que ça va faire mal. Puis je me protégeais en salle, demandez-la à ma femme. Fait que là, on a compris tout ça. Fait que là, j'ai continué à prier. J'ai continué ma conversation avec le Seigneur. Puis j'ai demandé au Seigneur d'adresser ça, de sortir de ma caverne, parce que moi-même, j'étais pas capable. À force d'écouter des enseignements, à force de discuter avec mes frères du groupe Vie, qui m'ont énormément aidé dans tout ça, Dieu les a grandement utilisés. À un moment donné, j'ai dit, gars, Seigneur, tu veux prendre soin de moi. Pourquoi est-ce que je doute de toi? Je veux pas faire le pas, Seigneur, parce que j'ai peur. J'ai peur de quoi? Tu me dis que tu vas être mon soutien. Tu me dis que tu vas être mon rocher. Que tu vas me prendre dans tes mains. Que tu vas m'entourer. Que tu m'aimes et que tu ne me veux que du bien. C'est OK, Seigneur. Je me souviens, ce matin-là, j'étais assis à mon bureau, puis la caverne, je restais toujours avec cette image-là, la caverne, dans mon cœur, c'est pas que je suis sorti. La caverne a disparu. Et puis, cette rage-là, cette résistance-là est disparue avec la caverne. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est juste. Ce qu'il dit est vrai. Quand il prend soin de nous, il prend soin de nous. Le Seigneur, la caverne s'est évaporée. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Là où j'en suis, ben là, présentement, le Seigneur, il fait beaucoup de travail dans la vie de ma femme. Il l'a utilisé grandement pour dans ma vie. Mais maintenant, je pense qu'il m'utilise pour dans sa vie. Parce que j'y ai fait beaucoup de mal à travers les années. Et puis, ce qu'elle avait au début, malheureusement, elle en a perdu beaucoup. Puis le Seigneur la travaille énormément dans son cœur. Puis, dans sa grâce, je crois que c'est juste une question de temps pour que le Seigneur fasse une œuvre extraordinaire dans sa vie. Il en reste beaucoup à faire dans la mienne aussi. Là où est-ce que j'en suis, je pense que je suis sorti de ma caverne, mais maintenant, ce qui me reste à faire, c'est... Il y a une rivière devant moi, pour mettre des images. Il y a une rivière devant moi, que je voyais pas avant. Puis cette rivière-là, c'est la rivière, c'est la source d'eau vive. C'est le Seigneur. Puis ce qui me reste à faire, c'est de sauter les bras grands ouverts dedans. Puis de pas juste, de commencer une relation avec le Seigneur qui est plus juste intellectuelle, qui est plus juste, mais qui est vrai, qui est profond. Puis dans sa grâce, le Seigneur va me faire sauter dedans au moment venu. Parce que tous ces événements-là qui se sont passés ces 5 dernières années, c'est pas moi qui les a contrôlés. C'est le Seigneur. Parce que si vous m'auriez demandé, voilà 5 ans, que toutes ces perspectives-là dans ma vie allaient changer, que j'avais tant de problèmes que ça, tant de mauvais concepts, j'aurais ri de vous autres. Mais le Seigneur est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et puis les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Aucunement. Quand je me préparais cette semaine pour mon message, j'étudiais un psaume. Puis c'est ma femme qui me l'a emmené. Elle a lu ça dans son temps le matin. Puis elle a dit, mais ça, c'est un beau psaume, ça. Je vais aller le lire à Étienne. Puis quand elle me lit ça, ça a fait « Oups là, c'est exactement ce que je cherchais. » Et puis on va tourner dans le psaume 32, s'il vous plaît. Et puis je pense que c'est un psaume qui résume très, très bien l'année que je viens de vivre avec le Seigneur. Puis en même temps, il y en a énormément de bonnes choses à sortir, à les retirer de ça. Psaume 32. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ici, c'est un psaume que David a écrit après que Nathan a été le voir concernant son péché avec Bathsheba. Les textes nous disent que ça l'a pris 1 an avant que Nathan aille voir David et puis qu'il expose son péché. Après cet événement-là, David a composé 2 psaumes. Il a composé premièrement le psaume 51, qui est le psaume de sa confession. Et puis ensuite, quelques temps après, il a composé le psaume 32, une partie duquel on vient de lire. Dans ce psaume, David, il fait comme un bilan de ce qu'il a appris de ça. C'est un psaume dont le but est éducatif. Dans la section qu'on vient de lire, David, il nous parle de son expérience. Il nous donne son témoignage. Pendant 1 an, David est resté dans le silence. Probablement que quand il a vu que les choses s'étaient replacées, que Uri était mort, que maintenant Bathsheba était devenue sa femme, il s'est dit, maintenant tout est correct. Il n'y a jamais personne qui va découvrir ce que j'ai fait. C'est ben trop atroce. Mais ce que David a expérimenté là pendant ces années-là, pendant cette année-là, il exprime ici, au verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Le cœur de David, on le voit aussi dans le travers du psaume 51, le cœur de David s'était asséché. Il était devenu une roche. David n'avait plus de relation avec le Seigneur. David ne chantait plus des louanges comme il chantait. Tout ce qu'il avait en face de lui, c'était son péché, puis il ne voulait pas le voir. David, il luttait. David, il luttait. Je pense que ça a été une des pires années de sa vie. Parce que dans tout ce que David a vécu, une chose qui caractérise David, c'est que peu importe ce qu'il vivait, il l'exposait au Seigneur. Quand il était heureux, quand il était fâché, quand il était dans la détresse, il exposait tout au Seigneur. Il vivait, mais il vivait avec Dieu. Des fois, il criait à Seigneur, « Voyons, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? » Il faisait, lui. Moi, avant, je n'osais pas. Hey, on ne remet pas en doute ce Seigneur. Hein? Parce que faire ça, c'est manquer de foi. Puis comme manquer de foi, c'est pas bien, c'est pas mieux, je le fais pas. Moi, je suis un bon chrétien, puis je veux chercher ce qui est le mieux. Donc, le mieux, c'est pas de douter du Seigneur, donc je ne doute pas du Seigneur. Ouais, mais là, la question, pourquoi elle arrive dans ton cœur? Non, tu n'as pas le droit de poser cette question-là. On ne remet pas en doute le Seigneur. Tu n'as pas le droit de poser ça, parce que si tu fais ça, tu vas manquer de foi, puis là, si tu manques de foi, on embarque dans toute la roue de la pression, puis de dire... Mais pourtant, David, il le faisait, lui. Puis, Seigneur, comment est-ce qu'on appelle David? L'homme selon le cœur de Dieu? Ce que David vivait, il vivait avec Dieu. Peu importe ce qu'il vivait. Puis, verset 5... « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, ce qu'il faisait depuis un an. » Maintenant, le Seigneur a dit, « Ça suffit, je vais t'exposer ton péché et comment ce que tu as fait est grave. » J'ai dit, « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Et tu as effacé la peine de mon péché. C'est pour ça que David, au début du verset, il peut dire « Heureux celui à qui les transgressions sont remises, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » Voyez ici, il y a trois mots. Transgression, péché, iniquité. Il adresse les trois. Transgression, c'est que tu as osé traverser la ligne que Dieu avait mise. Péché, c'est avoir manqué la cible, avoir passé à côté de ce que Dieu voulait, de l'idéal de Dieu. Iniquité, c'est avoir l'esprit tordu. C'est la perversité, si on peut dire, avoir l'esprit pervers, avoir l'esprit tordu. Et puis, c'est les trois mots qui sont utilisés pour adresser le péché, les offenses devant Dieu. Puis, David, il dit, « Les transgressions, elles ont été remises. Il n'y en a plus. Mon péché a été pardonné. Il a été enlevé. » Puis, à qui? À l'esprit duquel il n'y a point de faute. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. L'iniquité de leur péché, le Seigneur ne lui donne pas selon ce qu'il mérite. Heureux celui-là. C'est les trois choses-là. Puis, si David n'aurait pas ouvert la bouche, il n'aurait pas été honnête dans ce qu'il vivait avec Dieu, il n'aurait pas goûté à la joie qui nous parle ici. Puis, il en parle plus loin dans le psaume aussi. Ce que David avait à vivre, il vivait avec Dieu. Puis quand il dit « Je n'étais point caché mon iniquité », on ne parle pas ici d'une confession globale. David a mis des mots sur ce qu'il a fait. Chaque chose que David avait sur son cœur, il l'a dit. Il y a eu une conversation avec le Seigneur. « Ah, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis orgueilleux. » OK. Merci, Seigneur, je suis pardonné. J'ai été orgueilleux dans cette situation-là, je l'avoue. Et que le Seigneur, je te demande pardon. Est-ce que c'est cette confession-là que David a vécue? Ce que je trouve encore dans cette confession-là, je trouve qu'on veut garder le contrôle un peu. On reste un peu trop dans notre tête. C'est quand on dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. OK. Bon, ben, je te demande pardon. Je peux-tu continuer maintenant? Je vais faire attention. Savez-vous que le Seigneur est mort sur la croix pour vos péchés? Qu'il a payé ça à un prix très élevé? Puis que le péché dérange le Seigneur? Il l'a en outrage? Le Seigneur a payé votre libération à un prix énorme. La vie de son Fils unique. Il a souffert le martyre sur la croix. Parce que Jésus savait c'était quoi le péché. Si nous, on ne le réalise pas tout le temps, Jésus savait c'était quoi le péché. Puis quand il était sur la croix, il en comprenait tout le sens. Il portait tout le sens. Quand il a été séparé de Dieu, il n'a pas pu le tolérer. Il l'a fait. Mais je pense que c'est ça qui a fait le plus mal, parce que le péché sépare de Dieu. David ici souffrait parce qu'il était séparé de Dieu. Puis le péché sépare de Dieu. Toutes ces années-là, quand je luttais contre le Seigneur, est-ce que je pouvais me présenter devant Dieu? Dans ma tête, je le faisais. Parce que je me présentais devant Dieu qui me permettait, je me présentais devant un Dieu qui me permettait de garder le contrôle. C'est comme si je m'imaginais une relation avec le Seigneur. Le Dieu qui était devant moi, je lui mettais les limites, puis le Seigneur, il a le libre arbitre, puis le Seigneur, il respecte mes limites. Dieu est Dieu. Dieu est saint. Est-ce qu'on peut avoir le contrôle sur Dieu? Est-ce que Dieu peut tolérer le mensonge? Dieu est lumière. C'est dit dans sa parole que la lumière transperce tout. Puis tout ce qui est exposé à la lumière va devenir vérité. Tout ce qui est exposé à cette lumière-là va sortir. On ne peut pas fermer la porte quand on est véritablement devant Dieu. On peut pas dire, « Non, Seigneur, je ne veux pas que tu ailles là. » Non, tu es devant Dieu, tu es un livre ouvert. Puis si tu es réellement devant Dieu, Dieu va aller là où est-ce que lui veut. Non, où est-ce que toi, tu veux. Parce que si on ne laisse pas Dieu aller où est-ce qu'il veut dans nos vies, on lui résiste. Et on tente de garder le contrôle, et c'est impossible. Parce que quand on commence à faire ça, on s'invente un Dieu. Un Dieu qui me permet de vivre ma vie comme avant. Où est-ce que les choses ne sont pas adressées? On ne peut pas garder le contrôle devant Dieu. Dieu nous amène là où est-ce qu'il veut. Et puis, David le savait bien. Il savait très bien que le jour où il allait se présenter devant Dieu, il allait devoir faire face à ce qui faisait mal dans son âme, à ce qu'il ne voulait pas donner. Il le savait très bien. Et pendant cette année-là, il n'a pas eu de relation avec le Seigneur. Il n'en a pas eu. Parce qu'il fuyait. Le Seigneur nous cherche. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous veut. Et puis, quand je regarde mes 5 dernières années, ce que je peux en comprendre, la raison, je pense, pourquoi que le Seigneur a fait toute cette œuvre-là dans ma vie, c'est parce qu'au commencement, j'ai dit, « OK, Seigneur, je suis prêt à vivre ce que tu veux me faire vivre. » Je fais le pas, Seigneur, de sauter dans la rivière. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au bout, mais Seigneur, amène-moi. Puis je pense que la décision que nous, en tant qu'hommes, on a à faire avec Dieu, c'est ça. Regarde, Seigneur, je suis pas parfait. Puis tu le sais. Je cache des choses parce que je pense que il faut qu'on le soit parfait pour devant toi. J'ai honte, Seigneur, parce que je suis pas parfait, puis je devrais l'être, puis là, ce qui fait que j'essaie de te cacher ce qui m'empêche d'être parfait. Comprenez ce que je veux dire? Laissez ça tout ça de côté, là. Puis regarde, Seigneur. Je suis pas parfait. Je sais que j'ai des choses à travailler dans ma vie. Mais Seigneur, je fais le pas. Peu importe ce que je vis, peu importe les questions que je me pose, peu importe les souffrances, Seigneur, je vais te les poser. Peu importe, je vais te les poser. Seigneur, pourquoi est-ce qu'il est arrivé ça dans ma vie? Seigneur, pourquoi est-ce qu'un tel m'a fait ça? Pourquoi, Seigneur, que tu n'as pas permis que j'aie accepté à telle place, dans tel cours, que j'aille tel job? Pourquoi, Seigneur? Peu importe la question que j'ai sur mon cœur, Seigneur, je vais te la poser. Je vais arrêter de mettre genre de mur entre moi et toi en disant, chaque fois que je me présente devant ce mur-là, je suis la personne parfaite, le chrétien parfait, je manque jamais de foi, je pêche, oui, je pêche parce qu'il faut qu'on pêche, parce qu'on n'est pas parfait, parce que la Bible le dit, là, vous comprenez ce que je veux dire? C'est écrit dans la Bible que on a des péchés. Fait que là, je peux pas dire que j'ai pas de péché parce que là, je serais un menteur. Fait que là, ça marche pas. Fait que là, je me présente de l'autre bord. Ah oui, j'ai des péchés, mais vous comprenez ce que je veux dire? L'image du chrétien parfait où est-ce que tout va bien, sa vie spirituelle est florissante et blablabla, blablabla. OK? Chaque fois que je me présente là, ben, c'est comme ça que je veux me présenter devant Dieu parce que c'est comme ça que je dois être devant Dieu. C'est comme ça que je veux être devant les autres chrétiens aussi, parce que comme ça, j'ai l'air d'un bon chrétien spirituel, et puis là, les autres vont me laisser tranquille, puis peu importe, là, en tout cas. Vous connaissez les scénarios dans vos têtes, je pense, parce qu'on les vit pas mal toutes. Et fait que là, c'est d'arrêter ça, là. Arrêter d'essayer de mentir, puis de présenter une image, puis présenter vraiment ce qu'on est. OK? Fait que faites-le pas, puis dites-le au Seigneur. Moi, cette année, Seigneur, ça a été, Seigneur, guéris mon cœur. Parce que mon cœur est sec. Mon cœur est mort. Je sais que tu m'aimes, mais je le sens pas. J'aimerais ça, Seigneur, le sentir. J'ai beau essayer, là. Ça marche pas. Ça vient pas. C'est mort. Fait que là, je peux rien faire. Seigneur, viens réanimer mon cœur. Si vous faites ça, vous allez voir. C'est capotant. Il va commencer à arriver des choses tout autour, là. Vous n'avez aucun contrôle dessus, là. OK? Ceux que c'est le contrôle, qui veulent tout contrôler, là. Ben là, vous allez tout contrôler jusqu'à la limite du possible. Pour que là, ça c'est la limite, vous allez contrôler tout ça, là. Fait que là, si j'enligne ça de même, juste avant que je perde le contrôle, ça devrait aller de même jusqu'à temps que je peux regagner le contrôle. Et puis là, je peux continuer à aligner les affaires, puis là, je veux que ça aille par là. Fait que là, j'ai plus le contrôle. Fait que là, j'enligne, ça devrait aller droite. Mais là, vous allez vous rendre compte que dans les gaps, où est-ce que vous n'avez pas le contrôle, là, vous allez le perdre pour de vrai. Vous allez le perdre pour de vrai. Parce qu'il y a quelqu'un qui va se mettre là, puis qui va vous montrer qui il est. Il va vous montrer qu'il est vivant. Il va vous montrer qu'il care. Il vous cherche beaucoup plus qu'on peut même l'imaginer. C'est là que Dieu va venir vrai. C'est là que Dieu va venir concret. Comme il l'était dans la vie de David. La vie chrétienne, ça ne se vit pas avec sa tête. Oui, il y a un aspect d'intelligence, de connaissance. Mais juste ça, c'est mort. On s'imagine une relation avec le Seigneur. On a le contrôle. Seigneur, j'aimerais ça que tu me montres ça. Voilà, ma tête va tout comprendre ça. Merci Seigneur, tu m'as montré ces vérités-là. Mais mon ami, comment ça je suis pas capable de vivre? De les appliquer avec tout mon cœur, avec toute mon âme, avec toute ma force. C'est parce que c'est toi qui essaies de les appliquer. Tu n'es pas en train d'appliquer ce que Dieu veut changer dans ta vie. Tu es au contrôle. Quand tu as bien de la discipline dans ta vie, ma relation avec Dieu va bien, je lis tous les jours, je prie, je suis dans le service, je témoigne. Ouh, ça c'est bon, c'est beaucoup de points ça. Et que là j'arrive le soir, j'ai plein d'affaires à présenter devant Dieu, puis je suis donc heureux. Eh mon ami, l'homme est fou. L'homme est fou. Parce que Dieu veut bien plus que ça. Il veut nos vies, il veut nos cœurs. C'est lui qui fait les choses. Dans nos vies, c'est pas nous. Faites le pas. Seigneur,
Peut-être qu'il y en a qui doutent même s'ils sont réellement, s'ils connaissent réellement le Seigneur. Si vous avez ce doute-là dans vos vies, là, je ne suis pas en train de dire, là, doutez-en, puis remettez tout en question. Non, 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 c'est pas ça, là. OK? Si vous avez ces questions-là, osez donc les poser au Seigneur. Pensez-vous que Dieu est assez grand pour trouver des réponses? Il est le maître de l'univers. C'est lui qui nous a créés. Dieu est assez grand pour nous donner des réponses, je pense. Puis ça va vous emmener là où est-ce que Dieu veut que vous ayez, alliez. Faites le pas. Faites le pas. Dire, Seigneur, coûte que coûte, peu importe ce que je me présente tel que je suis devant toi aujourd'hui, Seigneur, puis je te pose la question. Seigneur, je ne la sens pas, ma relation avec toi. Mais ça va pas bien. Seigneur, veux-tu prendre ça au contrôle? Je comprends pas. Viens me montrer, Seigneur. Puis faites face à ce qu'il vous montre. Acceptez ce qu'il vous montre. Je pense que c'est la meilleure façon que vous pouvez glorifier Dieu dans vos vies, c'est en acceptant ce que le Saint-Esprit fait dans votre vie. Puis en le vivant, mais pas tout seul, avec Dieu. Si vous êtes fâché contre Dieu, OK. Mais vivez-le avec Dieu. Laissez rien vous éloigner de sa présence. Tout ce que vous vivez, vivez-le en sa présence. Ça va vous faire grandir. Mais si on s'éloigne de Dieu, puis on arrête de se présenter devant Dieu, ça va vous amener des problèmes. Juste des problèmes. Puis si on les... Le temps me manque, si on continuerait à lire le psaume 32, vous le verrez. Continuez à lire l'autre section. C'est la section où David nous donne des conseils. Il nous dit, ne résistez pas au Seigneur. Ne résistez pas. Priez-le pendant qu'il est encore temps. Quand Dieu vous montre un péché, allez au pied de la croix puis confessez-le. Accumulez pas de péché. Puis allez-y voir le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Seigneur, reviens. Hein? Seigneur, reviens. On ne sait pas ce qu'il nous réserve, ce que la vie nous réserve pour demain. Soyez pas comme le cheval, comme le mule, ou est-ce qu'il faut qu'on leur mette une bride dans la bouche pour les amener où ce qu'on veut? Ne résistez pas. Parce que le Seigneur, il va être obligé de vous mettre une bride dans la bouche pour vous amener là où ce qu'il veut. Ça fait mal. Ça fait très mal. Verset 11, juste, « Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Vous tous qui êtes droits de cœur. Ça ne veut pas dire avoir un cœur parfait. Ça veut dire un cœur qui est ouvert devant Dieu. Point final. OK? Un cœur qui est ouvert devant Dieu. Point final. Peu importe ce que vous avez fait, ce que vous êtes, Dieu va vous prendre tel que vous êtes. Puis il va vous faire cheminer. Il va vous faire traverser la ligne d'arrivée en son temps. Mais avant de traverser la ligne d'arrivée, il faut faire la course. Il faut faire le processus. On est une société qui cherche des résultats rapidement. On veut traverser la ligne avant d'avoir la ligne d'arrivée avant d'avoir couru la course. Si vous courez la course avant, quand vous allez traverser la ligne, tout votre corps va y être. Votre âme, votre tête, votre corps, tout va être là. C'est ça que Dieu veut. Allons en prière. Ah Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, sois loué par éternel. Tu es tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut espérer, Seigneur. Le travail que tu as fait dans ma vie était loin d'être ce que je m'imaginais. Mes plans étaient déjà tous faits, Seigneur. Je savais ce que je devais travailler, mais par éternel, tu m'as fait découvrir un monde qui était complètement inconnu à mes yeux. Sois loué, Seigneur. Sois loué parce que tu m'as emmené au pied de ta croix. Père éternel, prends soin de chacun d'entre nous, ici ce matin. Amène-nous au pied de ta croix tous les jours, Seigneur. Montre-nous notre péché. Fais-nous le comprendre comme toi tu le comprends. Montre-nous la gravité, Seigneur, de notre péché, devant toi. Que nos cœurs, Seigneur, soient en accord avec le tien. Amène-nous près de toi, Seigneur. Toi seul peux le faire. J'en suis incapable, Seigneur. Prends soin de nous, Père éternel. Tu es grand, tu es merveilleux. Tu es fidèle. Que la gloire te soit rendue, Père. Amen.